Il n'y a jamais eu une époque où il y avait le cadre juridique légal pour le faire, quoi. Ça a toujours été illégal. Même si, par exemple, tu prends les centres comme le Frisson à Fribourg, l'usine à Genève, Bikini Test à La Chaux-de-Fonds, la Dolce ici à Lausanne, ou Casa Choc à Neuchâtel, ça a toujours été des concerts sauvages, ça a toujours été des manifs dans la rue. Il n'y a jamais eu un cadre idéal pour le faire.
Ouais.
Le cadre, il était créé par la lutte, par la résistance.
Mais ouais, mais du coup la vitesse d'intervention était peut-être moins rapide que maintenant, ou bien
Oui.
vu que c'était plus nouveau, ils avaient les autorités, elles avaient moins, disons, le phénomène était déjà presque né, alors qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des trucs qui se passaient.
C'était moins. Il y avait un besoin. Si tu veux, les autorités, elles étaient gênées dans le sens qu'il y avait vraiment un besoin. À part l'opéra et puis les cinémas traditionnels, les théâtres traditionnels, pour les jeunes, il n'y avait rien.
Ok, ouais.
Tu vois? À part les maisons de jeunesse, quoi. Mais bon, pour les jeunes qui voulaient, après mai 68, tout ça et plus tard, un peu changer la société, vivre leur vie. Pas seulement de la machine travail, boulot, métro, dodo. Mais il n'y avait rien. Tu vois? Donc les générations, les parents se sont dit, mais nos gosses, quoi, les enfants, oui, finalement, ils ont besoin de quelque chose. Ils étaient gênés, ils étaient un peu culpabilisés. C'est peut-être pour ça que ça a passé. Ce n'était pas des interventions moins rapides qu'aujourd'hui, mais il y avait un besoin. Maintenant, les jeunes qui réclament des centres ou la liberté d'expression ou des centres autogérés, tout ça, mais il y a tellement de trucs. Donc les adultes, le pouvoir, il est moins gêné de dire aux jeunes, mais vous avez tout ce qu'il vous faut, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous avez tout. Vous avez même Internet, vous avez des salles de concert, des moins chères, des plus chères, vous avez des bistrots, vous avez. Il y a beaucoup de choses qui existent maintenant pour la jeunesse, qui étaient reprises par le commerce, on est d'accord. Mais eux, ils ne veulent pas regarder ça. Tu vois, tandis qu'à l'époque, ils acceptaient que les jeunes sortent du système du marchand, en fait. Parce qu'il n'y avait rien. Mais maintenant, tu peux quand même sortir un peu du système marchand grâce à Internet, notamment.
Je pense qu'on reviendra un peu sur aujourd'hui. Moi, pour vraiment, vu que je m'aventure dans l'inconnu, vraiment pour commencer, mais de toute façon ça va aller assez rapidement. Mais ce que j'ai, c'est moi j'ai le début de l'histoire, entre guillemets, par rapport au livre de Daniel. C'est votre rencontre en prison pour, comment ça se dit,
Des raisons antimilitaristes. Oui.
antimilitariste. Maintenant, j'aimerais juste commencer par ce qui a été avant, brièvement, dans le sens comment, disons, si t'as envie de dire quelques mots juste sur où t'es né comme ça, si déjà à l'école, t'étais, disons, lui en tout cas, il en parle, il dit, moi j'étais plutôt bon étudiant, j'ai fait l'université, donc j'aurais juste besoin en petit...
Sorte de filigrane, là.
Ouais, je nous filigrane par rapport à toi aussi, par rapport à ce parcours-là, et puis on arrive justement à ce moment-là de quand vous vous êtes rencontrés.
Bon, en fait, presque comme Daniel, je suis issu de la classe moyenne suisse, canton de Fribourg. Mon père ouvrier, il travaillait pour le département de l'armée, il travaillait pour le département militaire comme ouvrier. Il réparait les cibles au sol. Voilà, et puis une scolarité normale. Puis c'était l'époque des nouveaux instituts, dans un village, donc avec un instituteur qu'on avait toute l'année, tout le cursus scolaire de 7 ans à 15 ans, ou à 12 ans si on faisait le lycée après, c'était le même instituteur. Filles et garçons, une seule salle. C'était très collectif. Que te dire d'autre?
Et du coup, parce que maintenant, par rapport au système scolaire, on sait déjà assez tôt si on va, entre guillemets, faire un apprentissage ou si on va être quelqu'un qui va étudier. Donc toi, je sais pas du tout comment
Il
ça.
n'y avait pas de sélection à l'école primaire jusqu'à 12 ans, il n'y avait pas une sélection. Il n'y avait aucun cycle de sélection, ni même rattrapage. Oui, on pouvait redoubler une année.
Ouais.
Mais en fait, je faisais une scolarité normale dans un village où il n'y avait pas de dessin ni de musique. Par contre, le sport, du football. Mais vers les 11, 12 ans, 12 ans, quand c'était le moment d'aller à l'école secondaire dans la capitale, qui avait 3000 habitants et c'était veillé, je me suis dit, je vais faire instituteur. Pourquoi? Tu vas trouver ça bête, mais à l'époque, les nouveaux instituteurs qui arrivaient sur le marché, c'était des barbus, lunettes, deux chevaux, ils sentaient le patchouli, une nouvelle génération comme ça, un peu d'intellectuel de gauche, tu vois. Puis j'avais toujours des jolies copines, plus belles que les filles de notre village, soi-disant, enfin, parce qu'on les voyait tous les jours, les nôtres, tu vois. Et je me suis dit que pour avoir une jolie copine, il fallait être instituteur. Et je me suis mis au latin et au grec, à l'école secondaire. Uniquement pour ça, tu vois. Et puis après 2 ans de latin grec, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Mais ça m'a permis d'apprendre un peu le latin, quelques philosophes comme ça, puis aussi un petit peu le grec. Et puis c'est vrai que cette filière littéraire, en fait, m'a beaucoup aidé par la suite. Pour écrire, pour m'exprimer avec les gens, pour parler. Puis quand je me suis rendu compte à 15 ans que ce n'était pas pour moi, eh ben, j'ai fait un apprentissage, le premier que j'ai trouvé.
C'était quoi?
Cuisinier.
Cuisiner. Ah ouais, okay. Ah oui, du coup, t'as une formation
Ouais,
cuisinier.
ouais.
Ok, ouais. Et puis ça,
C'était juste pour échapper à l'école, en fait.
Ouais.
Parce que l'école commençait à me gaver.
Mais qu'est-ce qui te gavait l'école?
Bon, la discipline, le latin grec, je n'en voyais pas trop l'utilité. Puis une discipline, on avait un uniforme encore, une veste, une casquette. Des profs de l'ancienne génération, assez répressifs.
Mais
On se faisait encore frapper de temps en temps.
et ça, on est juste dans quelle année environ pour me situer?
65,
65,
60,
ouais. Du coup, il n'y a
65,
pas encore eu
65.
68, quoi.
Non.
Ouais.
En 68, je l'ai connu, j'avais 15 ans, sauf erreur, j'étais en apprentissage.
Ok. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis de l'école, un peu uniforme, discipline et tout, la cuisine, ça a dû être quand même aussi,
Il y
hein,
a une
parce que c'est
autre.
aussi une hiérarchie
Si,
assez.
si, c'était aussi. Mais il fallait faire quelque chose. À cette époque, tu ne pouvais pas rester à la maison. Non, si tu veux, j'étais d'une famille de 5 garçons. Le premier, mes parents lui ont payé les études. Le deuxième voulait faire technicien et donc ils lui ont payé le technicum, mais plus tard, ça, il a pas réussi, quoi, voilà. Le troisième, il ne pouvait pas me payer l'étude. Il fallait que je fasse un apprentissage ou que je parte de la maison. Il ne pouvait pas nourrir une bouche comme ça sans rien faire, surtout qu'il y en avait deux derrière moi. Tu vois? Donc il fallait que je quitte la maison, que je fasse quelque chose. Donc un apprentissage. Et à l'époque, ben, il y avait du boulot.
Mais du coup, pourquoi la cuisine, ça t'a pas dérangé ou te dire, t'aurais pu dire à un moment donné, je vais faire un autre apprentissage où il y a une discipline moins rigoureuse.
J'avais un esprit social. Au début, je voulais faire sommelier. Serveur, parce que j'avais fait un stage dans un hôtel et ça me plaisait le contact avec les gens, mais il n'y avait pas de profession sommelier, même quand on disait les sommeliers c'est pour les PD, tu vois, parce que c'était que des sommelières en fait,
Ouais.
sauf
Ah
dans les
bon.
grands hôtels. Mais dans nos régions, qui c'est qui servait à manger et à boire, c'était des femmes, donc il n'y avait pas d'apprentissage de sommelier de toute façon dans le canton de Fribourg.
OK.
Oh, j'ai fait la cuisine, mais un peu par hasard, voilà, l'hôtellerie. Contact avec les gens.
Et puis ça te plaisait, donc du coup les trucs d'équipe, on peut.
Ouais, c'était un petit restaurant, on était que 3-4 avec le patron, donc ça allait quoi.
OK.
Très mal payé, 50 francs par mois. Il fallait tout faire, la cave, la vaisselle, la salade, le nettoyage du bistrot, l'appartement du patron et de la patronne. Et puis accessoirement un peu de cuisine, tu vois. Qu'on soit juste bon pour réussir les examens.
C'était comme presque du esclavage.
Ouais, un peu, ouais. L'exploitation.
Et du coup, t'as fini ton.
L'apprentissage, ouais.
À 18 ans, comme.
17 ans et demi. À l'époque,
17 ans et demi.
c'était 2 ans et demi.
Ok.
Puis par la suite, j'ai fait des stations. C'était la mode, une fois qu'on avait fini notre apprentissage, on devait aller dans les stations de ski, stations d'hiver,
Ok,
stations
ouais.
d'été.
C'est là que t'as commencé à aller en Espagne.
C'est un peu plus tard, j'ai d'abord fait quelques saisons à Anzer, à Gstaad. Mais c'est là que j'ai connu, au Mövenpick, tout près d'ici, si on peut dire où on est,
Ouais.
dans une ville de Suisse romande. J'avais un congé depuis Anzer, non, Pickstad, et j'ai rencontré un syndicaliste au bar du Mövenpick qui m'a rempli mon sac à dos de tracts communistes, syndicaux. Et je suis retourné à Gstaad avec tout ce matériel et puis je distribuais ça dans les bistrots et je me faisais foutre dehors un coup de pied au cul, tu vois. Parce que Gstaad, c'est vraiment pas la station idéale pour faire du syndicalisme.
Ouais.
Et je faisais partie du syndicat Union Helvétien, qui soi-disant protégeait les employés de l'hôtellerie, mais protégeait surtout l'hôtellerie en général, donc les patrons. Tu vois, c'était pas un syndicat pour les ouvriers. Je me suis fait même exclure de ce syndicat.
Ouais.
Parce qu'à Gstaad, ça ne se faisait pas de faire l'agitation.
Mais du coup, c'est à ce moment-là où tu reçois des tracts que tu commences à avoir un...
Une sorte de
Genre...
conscience
Ouais, c'est à ce moment-là.
aussi. Avec moi, il y avait beaucoup d'Italiens, d'Espagnols qui travaillaient dans les cuisines. Ils faisaient un boulot plus ingrat que le métier de commis de cuisine. Et ils étaient beaucoup moins bien payés et mal considérés, là où ils logeaient aussi. Donc j'ai eu une conscience d'injustice, d'exploitation, dont je n'étais pas la première victime. Mon côté social.
Et avant, t'avais, avant d'avoir cette conscience, à part avoir un métier, comme tu disais que c'était la nécessité, mais tu rêvais de quoi, si tu te souviens, t'avais envie de devenir quoi quand t'étais grand, avoir ton restaurant, c'était...
Non. Non, ça s'est passé, tu
Même
vois.
si c'est très, même si tu veux dire astronaute, hein, je veux dire, mais juste pour...
Non. Tu vas rigoler, je t'ai parlé de mon désir de faire instituteur.
Ouais.
Bon. Alors, mon désir de vivre l'aventure, il est provenu d'une émission de télévision que je regardais. On a eu la télévision en 60, ouais, j'avais 10 ans, 12 ans. Avant, il n'y avait pas de télévision. C'est les plus pauvres du village qui ont gagné un concours, l'almanach de la Broye, une télévision. Donc c'était la seule télévision dans le village, de 150 habitants. Donc tous les jeudis, jours de congé, on allait regarder la télévision, les enfants, dans des bancs, sur des bancs, la cuisine, voilà, d'une ferme. Et le soir, c'est nos parents qui allaient la voir. Bon, il y avait Romain Desbois, Yvan Noé, des conneries comme ça. Et il y avait une série américaine, Hong Kong, où le héros, c'était un agent secret. Il était pourchassé par les méchants, par les bons, par les flics, par tout le monde. Je pense que c'était un agent de la CIA, finalement, après réflexion. Il était pourchassé par les Russes, les Chinois, la police locale, et il avait toujours des jolies voitures de sport. C'est pas tellement les voitures de sport qui m'intéressaient, il avait toujours un flingue, il était toujours en fuite. Il était pour la justice, une justice à l'américaine, quoi, j'imagine. Et en même temps, je regardais par la fenêtre le village, les tracteurs qui passaient, mes voisins, les paysans, mes copains, mes copines, mes parents. Cette situation villageoise qui ne bougeait pas, qui était ennuyeuse, quoi, qui était ennuyeuse. Hein. Je m'emmerdais, je me suis rendu compte que je m'emmerdais et je ne voulais pas vivre comme eux. Si tu veux, je voulais vivre l'aventure. Ça a été un déclic. Encore à la gomme, comme l'histoire de l'instituteur, mais c'était un déclic.
Et du coup, après, quand t'as fini ton apprentissage, comment t'allais chercher cette aventure? Disons, t'as les tracts, puis t'as toujours cette envie d'aventure, puis...
Je quittais une place très rapidement. Dès que ça me plaisait plus, je me fâchais souvent aussi avec la hiérarchie. J'étais un peu rebelle, mais pas structuré. Juste rebelle, quoi. Rebelle aux ordres, tout ça, à la hiérarchie. Alors, après une saison, je partais, et même en cours de saison, je partais. Cette aventure, j'ai pu la vivre en me déplaçant beaucoup pour des raisons professionnelles. Selon ma volonté, changer beaucoup de place.
Puis du coup, tu étais plutôt loup solitaire ou tu avais quand même des gens, tu as
Assez loup
rencontré.
solitaire, ouais.
Ouais,
Ouais.
tu as
Agneau solitaire.
Agneau
J'étais encore pas
solitaire.
loup.
Ouais. Mais est-ce qu'il y a eu des gens à ce moment-là que tu as rencontré qui t'ont. À part ce syndicaliste au Mozambique, mais est-ce
Toutes
qu'il y a.
sortes de gens. À Anzer, par exemple, à Gstaad, très peu. Hein. C'est une station très conformiste. Mais à Anzer, en Valais, ben, j'ai connu des Valaisans. La mentalité valaisanne. La première fois que je me suis fait un copain en Valais, on s'est bagarré. On s'est bagarré dans la boîte de nuit sous le restaurant où je travaillais, les masques à Anzer, pour une nana. Voilà. On s'est bagarré, on s'est donné des nions. Et puis à la fin de la nuit, on s'est saoulé, on était les meilleurs copains durant toute la saison. Donc j'ai appris la mentalité valaisanne, mais la mentalité rurale, pas mafieuse ou quoi que ce soit. Si tu veux, durant ces pérégrinations, ben, j'ai eu beaucoup de contacts de toutes sortes, différents. Mais c'est aussi ce fait-là qui m'a fait détester ce que j'ai appelé plus tard ce qu'on appelle le système capitaliste. Tout système de consommation. Travailler pour dépenser, dormir, travailler, dépenser, dormir, ça ne me plaisait pas. J'avais conscience que je rentrais dans une machine qui me déplaisait. Et j'écrivais des lettres de lecteurs à Lausanne. J'ai aussi eu travaillé à Lausanne, qui n'ont jamais été publiées. Avant les fêtes.
Okay.
Pour dénoncer toutes ces lumières, toutes ces vitrines, toutes ces étoiles de Noël, toute cette consommation qui me semblait déjà absurde. Mais sans structure politique.
Mais du coup, par rapport à parce qu'il y a un peu ce côté rural qui t'ennuie, mon côté. Puis notre côté, il y a ce qu'on a appelé la modernité ou les 30 glorieuses que t'aimes pas du tout. Donc, maintenant même, tu te situes avec ce truc parce qu'en même temps, tu rejettes les deux côtés. Donc, qu'est-ce que...
Le côté rural, non, je ne le rejette pas. Oui, le côté vivre comme paysan ou dans un petit village, ça me semblait ennuyeux, mais je n'ai jamais rejeté le côté rural. Je ne voulais pas y être.
Ouais.
Ce n'était pas mon destin, ce n'était pas mon désir. Mais je n'ai jamais eu de problème avec les gens ruraux, si tu veux.
Oui, non, mais je les ai rejetés dans le sens de vouloir ouais, partir et comme partir, ça. Ouais. Mais du coup, en même temps, tu ne trouves pas trop non plus ta place dans le centre des villes.
Non. Ni à la campagne, en y vivant, ni dans la ville. C'est pour ça que je bougeais beaucoup.
Ok. Et là, moi, par rapport au livre que t'as écrit, là, le Droit de révolte, il me semble, si je me souviens pas, c'est ça le titre.
Hein. Oui.
Donc tu parles dans gérant d'un bar là, la rue de Lalle anglais.
Kimball.
Ouais, ça tu peux m'en dire quelque chose. Là du coup c'est environ à ce moment-là non, que tu te fais travailler chez lui.
70. 69, 70. Non, attends, début des années 70.
Donc c'est entre la fin de ton apprentissage et lui, il y a un truc qui se passe au milieu où on y est.
J'avais environ 19 ans.
19 ans, ok.
Ouais, 19-20 ans. Par là.
Ouais. Et puis là, qu'est-ce qui te plaisait de ce mec?
J'avais une annonce. J'avais quitté le restaurant du théâtre chez M. Chitone, à Lausanne donc.
Ok.
Et puis un soir, je suis à la cuisine tout seul. Et je lui ai envoyé la table 12 ou 13, je ne me souviens plus. Et Chiton, en italien, très sanguin, très volubile, il vient à la cuisine puis il me dit « Envoie la table 11 avant, c'est des amis. » Puis je lui ai refusé, j'ai dit « Non, la table 12, elle est en train, là, je finis les sauces et tout. » Je t'ai dit d'envoyer, c'est moi le patron. Il dit « Non, moi, le patron, il a enlevé sa veste, mis son tablier, il est venu à la cuisine, il a envoyé sa table et moi j'ai envoyé la mienne en même temps. » Alors là, il m'a traité ensuite d'anarchiste, de révolutionnaire, et que le lendemain matin, je devais passer chez lui chercher ma paye. Et le lendemain matin, il s'est excusé en me disant « Tu es un révolutionnaire, mais tu n'es pas anarchiste. Je m'excuse.
» C'était quoi la différence selon lui?
Je ne savais pas. Je ne savais pas.
Okay.
Mais en fait, il m'a révélé à moi-même quelque chose que j'ignorais, je pense.
Ok.
Et en ouvrant le journal, le même jour, je trouve une annonce de ce Kimball, le café du Crédit Foncier à la rue de Lalle. Restaurant dingue, cherche cuistot dingue.
Voilà. Et là-bas, t'es resté un peu plus que les autres endroits ou...
Non, environ une année en tout. Okay. Mon désir, c'était de partir en Espagne.
Pourquoi l'Espagne à ce moment-là?
J'avais un ami qui travaillait par là-bas,
okay.
À Benidorm. Le Las Vegas espagnol.
Parce que c'était sous Franco encore à l'époque.
C'était sous Franco, ouais. Oui. C'était en 72, je pense.
Puis du coup, Benidorm, c'était un peu un endroit non franquiste ou bien.
C'était un endroit touristique.
Moi je connais pas du tout, donc ça veut dire que ça c'était plus libre, c'était comment?
Non, on n'avait pas le droit de se promener. Les femmes n'avaient pas le droit de se promener en bikini, sauf sur la plage. Torse nu, c'était interdit. Enfin, des choses comme ça. Mais c'était beaucoup plus tolérant que le reste de l'Espagne.
Ok.
Parce qu'il y avait beaucoup de fric qui arrivait.
Ouais.
Et là, j'ai connu des anti-franquistes et des franquistes. J'ai travaillé dans un restaurant qui était pro-franquiste et dans d'autres restaurants qui étaient anti-franquistes. Ça m'a permis de connaître la dictature de Franco, mais presque par contumace, parce qu'à Benidorm, Benidorm n'était pas un repère de communistes, ni de CNT, ni d'anarchistes. Mais théoriquement, j'ai compris que c'était que le franquisme. Beaucoup d'histoires sont arrivées dans la région. Par exemple, un jeune Allemand qui rentrait du Maroc, que j'ai eu la chance de connaître comme ça, on se connaissait, les jeunes étrangers, on se connaissait un peu dans les boîtes ou à gauche à droite. Et il allait voler des écrevisses dans un parc d'écrevisses tenu par un ancien guardia civil, un ancien flic, qui mettait un peu de beurre dans ses épinards,
Ok.
à sa retraite.
Ouais.
Parce qu'il avait une toute petite retraite. Donc ça le faisait chier de se faire piquer ses écrevisses. Alors il a appelé ses anciens collègues. Ils ont monté une embuscade et un jour, il s'est fait choper. Haletant, il a couru et il a reçu une balle dans le dos et il est mort.
Ah ouais.
Donc il ne disputait pas à l'époque. Il y avait une tolérance à Benidorm, mais les voleurs, les braqueurs, les gens qui parlaient de politique, qui parlaient de Franco, ils étaient mal vus, mal considérés.
Et du coup, pourquoi t'es pas resté là-bas, disons?
J'ai fait plusieurs saisons.
Tu venais ici l'hiver et puis.
En hiver, soit je venais ici, soit j'allais en France travailler.
Et l'été en Espagne.
Ouais. Pendant 4 ans, j'ai fait ça. Et ça coïncide avec l'ordre de marche que j'étais faire à Sion avant de partir en Espagne. Parce que mes papiers n'étaient pas à Lausanne, mais en Valais.
Ok.
Et j'ai fait mon ordre de marche, donc c'est l'exercice pour être engagé à l'armée.
Ouais, le
C'est le
recrutement.
recrutement.
Ouais, c'est juste 2 jours.
Ouais, un jour.
Un jour.
Et j'ai réussi tous mes examens physiques. Et il n'y avait pas d'examen psychologique, je crois. Et on m'a demandé dans quelle arme je voulais m'intégrer. Vu que je pouvais choisir, vu que j'avais réussi. Et je savais que je ne ferais pas l'armée, donc qui ne m'intéressait pas du tout. Je savais que je ne ferais pas l'armée, mais je me suis dit que si jamais j'étais un jour obligé de faire l'armée, ben je préférais aller à la montagne. Donc j'ai demandé à être fusilier de montagne.
Ok.
Voilà, à Savatan.
Pourquoi pas à la cuisine?
Mais je voulais aller dans la nature.
Ok.
En cas que je sois obligé de faire cette putain d'armée, j'aurais aimé être au moins dans la nature. Donc fusilier de montagne. Ils étaient tout contents. Ah, fusilier. Et je suis parti en Espagne. Donc quand je revenais en Suisse, ben, j'étais recherché. Parce que je ne me suis jamais présenté à la caserne.
Ok, ouais.
Durant 3 ans, j'ai raté 3 ordres de marche. Donc à chaque ordre de marche auquel je n'ai pas répondu, j'ai été condamné à 6 mois de prison, ce qui me faisait un total de 18 mois.
Et puis, mais du coup, quand tu revenais en Suisse, tu t'annonçais pas
Non, je
ou.
travaillais au noir,
Ok, ouais.
dans les restaurants à gauche à droite.
Et puis, comment ils ont fait pour. Non, avant, encore pour l'Espagne, par rapport au voyage, comment se passait le voyage à l'époque? Parce que maintenant, ça a l'air. On prend l'avion en 1 heure, on y est, mais à l'époque, ça se passait comment?
J'ai vendu un disque de Barbara, l'Aigle Noir. J'avais un vieux magnétophone, un vieux tourne-disque qui s'est mis à fumer un jour. Donc j'ai vendu les 3 disques que j'avais. Un Led Zepp, Gilbert Montagnier l'aveugle
Ouais.
et Barbara. Ça m'a payé mon voyage jusqu'à Barcelone avec une voiture qui descendait pour participer aux frais d'essence.
Ok. Il y avait du covoiturage du coup.
Oui. Et après, ben, j'ai fait du stop.
Et ces trois
Jusqu'à
disques,
le
c'est
coup.
toi qui les as achetés
C'était les miens, oui.
avec tes salaires du
Oui.
coup. Puis pourquoi
Barbara,
Ouais.
l'Aigle Noir, c'était merveilleux. Je connaissais pas l'histoire du viol par son père, mais c'était une super chanson.
L'aigle noir.
Led Zepp, je me souviens plus le morceau, mais de toute façon, sur la lunette arrière de la voiture, le disque il a ondulé. Mes acheteurs qui m'ont emmené en voiture, donc ils n'ont pas pu écouter Led Zeppelin parce qu'avec le soleil,
Ah,
il est
merde.
devenu ondulé, quoi.
Ouais.
Mais bon. Et
Mais
Gilbert Montagnier,
Gilbert Montagnier,
ouais.
pourquoi? C'était un truc de boîte.
Ça devait être un tube.
Tu te souviens pas?
Non.
Puis encore avant l'Espagne, c'est. Du coup, j'ai cru comprendre que tu sortais pas mal et tout ça. Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans, dans le sens, il y a des gens qui travaillent, puis ils mettent de l'argent de côté, ou comme ça, puis t'as dit, je travaillais, puis je sortais, je travaillais, puis je sortais.
Je quittais le boulot, tu dis.
Ouais, puis
Oui.
t'allais en boîte, t'as dit,
Non.
non.
Non, très peu, oui. Dans les stations où je travaillais, oui, j'allais en boîte parce que c'était la seule activité à part le ski.
Ok, puis skier, c'est.
Si, je le fais un peu de ski.
Ok. Puis en boîte, ça te plaisait aller en boîte ou. Tu
Comme ça,
dansais,
oui.
ça te plaisait de
Ben,
danser.
c'est-à-dire que, comme cuisinier, je m'arrangeais avec deux, trois collègues pour chouraver du matériel à la cuisine, c'est-à-dire des entrecôtes, des bons morceaux de bidoche qu'on offrait au barman de la discothèque, et lui nous offrait des whisky. En fait, il y avait tout un troc, un échange, et puis ça me permettait d'aller m'amuser, danser, draguer, pratiquement gratuitement.
Ok, ouais. Parce que non, je sais pas si t'étais déjà au courant ou si t'es peut-être après au courant, mais disons que c'est troc entre, on va dire, employé ou ouvrier, quel que soit le domaine, ça, disons, au niveau théorique, ça s'appelle faire la perruque ou après plus facilement, ça s'appelle faire du sabotage, ça veut dire qu'on. Puis
Ou la reprise individuelle, mais
ouais.
là c'était la reprise collective ou du sabotage.
Ouais, mais du coup, tu penses que ça t'a donné un. Ça t'a inspiré quelque part
Pour la suite,
pour la
oui.
suite.
J'étais content, nous étions contents de traficoter. Ça, c'est évident.
Ok, ouais.
C'est comme si on faisait le doigt d'honneur au patron.
Ouais.
Voilà. C'était une façon de le faire.
Mais du coup, ça, tu l'as appris comment? C'est venu de la.
Naturellement.
C'est venu naturellement.
Naturellement.
Ouais. Il n'y a pas eu, je sais pas. Moi, par exemple, je crois que je t'avais écrit sur ça, mais la première cuisine sur laquelle j'allais travailler, c'était un ancien dealer de drogue. Puis je suis arrivé frais comme une rose à 15 ans. Puis il m'a appris justement ce genre de choses. Puis non, il m'a appris un peu le truc de plein de techniques de travail ou comment on me. Faut filer avec le travail. Donc, est-ce qu'il y a eu quelqu'un aussi pour
Mes
toi,
collègues.
tes collègues?
Dans la boîte, le barman, je me souviens, c'était un Français qui avait travaillé en Corse. Il s'était fait sauter la boîte dans laquelle il travaillait par les autonomistes. Parce qu'il travaillait pour un Français du continent. Bref, il avait déjà vécu certaines choses. Et dans son chalet, il invitait des copains, des copines. Et puis il fallait manger, et il fallait inviter les copines et les copains. Donc moi, j'étais bien placé pour lui trouver de la viande.
Ouais.
Et lui, il était bien placé aussi pour que je puisse aller danser gratuitement. C'est un échange qui est venu assez spontanément, je dirais.
Puis on peut lui donner un prénom à ce serveur ou l'en vanter. On va dire, bon, serveur. La station de ski, c'était un peu juste pour le situer d'une manière.
11h.
Serveur 11h, puis on se souvient au cas où il revient. C'est bon pour toi.
Mais oui.
Ok, donc toujours dans le livre, je crois que c'est dans la préface ou dans l'arrière du truc, il y a cette phrase qui m'a fait assez rire, mais qui dit que t'aimes bien les femmes, les filles.
C'était un livre que j'ai écrit en prison. Et en prison, on peut avoir une grosse frustration, toutes sortes de frustrations. C'en était une, importante.
Mais du coup, par rapport à ce moment-là où tu n'étais pas encore en prison, mais justement, tu dis, il y avait des filles, on dansait en boîte comme ça, tu étais plutôt de... Tu étais quelqu'un qui n'avait pas de situation régulière.
Non, j'avais pas de relation régulière, très peu, 2 mois, 3 mois, le temps d'une saison, même pas.
Mais ça, c'est parce que ça t'intéressait pas.
Non, non. Peut-être l'exemple de mes parents, l'exemple de tous ces gens, mes oncles, mes tantes, à la campagne, je n'avais pas envie de vivre comme eux.
Ouais. Puis...
Et l'hôtellerie, ça m'a permis de connaître des gens, des filles, des garçons, et puis de vivre quelque chose d'autre, plus libre. Voilà.
Puis c'était un truc qui était partagé aussi par les autres, ou tu étais plutôt tout seul dans cette mouvance comme ça?
Quels autres tu parles?
Bah justement, bah les filles ou les autres garçons, c'était toute une atmosphère comme ça assez libre.
Oui, c'était des jeunes qui sont dans les stations, soit les travailleurs, soit les touristes. Et les travailleurs, ils draguent les touristes, que ce soit les hommes ou les femmes, ou les femmes ou les hommes, ou les hommes ou les hommes. Hein. C'est cette situation-là, quoi, éphémère. Ça dure 3 mois, et puis pendant 3 mois, on essaye de s'éclater, puis gagner un peu de sous. Ça ne va pas plus loin. Et il y a eu très peu de contacts que j'ai gardés par la suite avec les mêmes personnes.
Ok, ouais. Puis du coup, tu vas en Espagne, tu reviens des fois ici en situation irrégulière pour trouver une formule. Et donc là, donc je résume, hein, donc si je résume mal, tu peux préciser. Hein, donc, il y a un peu cette rencontre avec ce gars syndicaliste Mauvimpic qui donne une conscience. Il y a des mecs non anti-franquistes aussi. Ça, peut-être tu peux dire un peu comment ça s'est passé, comment tu les as rencontrés, qu'est-ce qu'ils disaient, qu'est-ce que ça t'a fait dans ta tête de discuter
Le
avec eux.
plus virulent ou le plus important pour moi, c'était un Anglais.
Ah bon?
Un vieil Anglais qui avait eu une affaire à Benidorm, un restaurant, je crois, et qui était de gauche, qui était travailliste en Angleterre, qui était plutôt communiste de gauche, et qui m'a beaucoup parlé du franquisme.
Piqué, plus ou moins, qu'est-ce qu'il disait, disons, qu'est-ce qu'il
Il m'a parlé de la dictature du franquisme, il m'a parlé de ce qui s'était passé, la guerre d'Espagne, je n'avais pas aucune idée de la guerre d'Espagne en 36, ou très peu d'idées, je ne l'avais même pas appris à l'histoire, à l'école. Hein.
Ah ouais.
Tout ce qui s'était passé, et puis que maintenant, Jacques, tu vois, on vit dans une dictature. Essaye de parler de Franco dans un bistrot, essaye, parle. Et c'est vrai que tout le monde se taisait. On était assez libre là-bas. C'était libéral si tu veux, mais il ne fallait pas même parler de Franco. C'était tabou. Bon, il m'a beaucoup appris. Et aussi les Espagnols qui étaient de son bord, disons, d'un sentiment socialiste, je voyais leur peur. Ils avaient peur de parler. C'est comme maintenant quand tu vas au Mexique, j'ai eu la chance d'y aller il y a une année et demie. Eh ben, les gens, ils veulent pas parler. Tu leur demandes qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de militaires et de flics ici. Les narcos, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'osent pas te parler. Il y a une espèce de chape de peur. Les gens ont peur de s'exprimer aux étrangers, aux autres. C'est un peu le même truc.
Et du coup, c'était quoi plus ou moins l'idée du socialisme que tu avais, disons, c'était quoi le monde idéal que t'imaginais?
J'étais libertaire. J'étais pour la liberté, mais je me rendais déjà bien compte que la liberté, je ne pouvais pas la vivre tout seul. Elle était avec les autres. Mais je n'avais pas de stratégie. Je souhaitais un monde meilleur ou un monde différent, mais j'avais autre chose à faire que de me battre pour ce monde différent, puisque pour moi, il me plaisait quand même assez, vu que je me donnais les moyens de passer entre les gouttes. De choisir mon temps de travail, du travail comme je voulais, plus ou moins, et où je voulais. C'était les Trente Glorieuses, hein. Il y avait du boulot partout, même en Espagne. Celui qui voulait travailler, il avait du boulot. Donc c'était pas une urgence pour moi de changer de système. Pas encore.
Et puis entre socialisme et libertaire, comment tu...
Mais je voyais pas la différence.
Ok.
Non.
Puis maintenant, il y a une différence selon toi.
Oui, énorme, bien sûr.
Puis maintenant, tu es plutôt
Anarchiste.
anarchiste. Puis comment. C'est venu après cette précision.
C'est venu petit à petit.
Ok.
Que je me revendique ou que je me sente appartenir à une famille d'idées. Auparavant, j'y étais, ou dans la marge de cette famille d'idées. C'est vrai que je ne me battais pas durant cette époque. À part la solidarité que j'exerçais envers des personnes qui étaient plus démunies que moi, et je demandais aussi la solidarité des fois, cette solidarité naturelle qui convient aux êtres humains qui ne sont pas bornés, quoi. Mais sans plus.
Et par rapport à cette époque, pour faire en zoom arrière, disons que beaucoup de gens à cette époque-là vont plutôt se diriger vers l'Angleterre ou l'Amérique. Puis toi, est-ce que c'était un truc qui te faisait aussi envie?
Non. J'aurais aimé à une époque, quand je pratiquais encore mon métier, donc à cette époque, quoiqu'en Espagne, je n'ai pas fait seulement ce métier. Une de mes envies, c'était d'aller travailler sur les bateaux, les cargos. Mais je m'en suis jamais donné les moyens, non plus.
Et l'Amérique et l'Angleterre, pourquoi ça n'a pas été une envie à un moment donné? Parce que justement, à cette époque-là, c'était vraiment on regardait l'Amérique comme moi, en tout cas, par rapport à ce que je connais d'Italie, c'était qu'il sortait du fascisme. Donc, il y avait soit d'un côté un lourd passé fasciste, soit d'un autre côté un lourd passé catholique. Et puis, toute la jeune génération, donc la tienne, s'est tournée vers ce qu'on appelle maintenant la société de consommation, mais qui était quand même pour eux une manière de se rebeller aussi à un certain passé. Et puis, selon toi, pourquoi t'as pas eu d'intérêt pour ce.
Oui, mais je peux te reprendre en disant qu'il y a une grande partie aussi des Italiens et Italiennes de ma génération qui ont choisi la lutte, hein, en restant en Italie.
Oui.
Il y en a beaucoup aussi.
Il y en a beaucoup.
Oui. Je n'ai jamais choisi l'Angleterre, ne m'intéressait pas, je ne sais pas pourquoi. L'Amérique ne m'intéressait pas parce que j'ai eu l'occasion de lire soit des BD, voire des films à propos de l'Amérique. Et j'ai compris les massacres d'Indiens, j'ai compris ce qu'avaient fait les Blancs, et j'étais plutôt pour les Indiens, les indigènes. Donc ça ne m'intéressait pas d'aller. New York ne m'a jamais impressionné. Non, j'ai jamais eu l'envie d'aller là-bas.
Et par rapport à la guerre du Vietnam, il y avait des échos ici, toi, c'était un truc qui t'intéressait
Oui,
ou.
j'étais anti-américain.